Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Quelle joie en tout cas de vous retrouver hein, comme chaque lundi soir 19h-20h30. Alors naturellement aujourd'hui on va encore beaucoup parler dans la première partie de cette émission de Ballon Ovale. Je salue mes deux acolytes, ceux qui vont m'accompagner pendant toute cette période du Mondial, à savoir d'abord Julien Combes. Ça va Julien, bonsoir.
Ouais super, ouais. Bonsoir à tous.
Belle semaine.
Belle semaine, beau ouais. Week-end, hein, beau week-end de compétition avec ouais. vraiment des beaux matchs encore, du spectacle et... Non, c'est bien pour le rugby.
Voilà, puis je salue mon autre acolyte, mon ami François Artigas. Salut François.
Ben bonjour.
Hein. Ça va?
Bonsoir plutôt.
Ouais, pleine forme.
Oui, pleine forme. Ouais. Oui, effectivement, ce week-end, on était très gâtés. Et je pense que ça a été les spectateurs aussi.
Voilà, et puis nos auditeurs vont être gâtés, puisqu'on retrouvera une icône du rugby, hein, Joe Mazo, à partir de 19h30, on l'aura au téléphone. Et puis on a aussi quelques interviews qui sont déjà disponibles sur notre Facebook. On a ramené le dimanche du match des légendes, hein, Dimitri Zarzinski, Philippe Guillard, un grand monsieur, Max Guadini, puis Pierre Abadan. Donc on pourrait aussi réécouter donc, ces interviews qui sont déjà disponibles sur le Facebook. Donc vous voyez, on va gâter nos auditeurs, hein, voilà. Donc, cette Coupe du Monde, pour l'instant, au bout d'une semaine, Julien, pas de grosse déception. L'ambiance est toujours la même.
Ouais, l'ambiance est toujours la même. Voilà, je pense que les résultats des différentes équipes là, oui, sont plutôt normaux. On a eu juste ce week-end là un vrai beau match.
C'est voilà. Plus beau.
Il y a eu un Galles-Fidji quand même, oui, ouais, qui était intéressant, donc au détriment des Fidji. Et là, bah là, ils ont eu l'occasion encore de se montrer, de faire une vraie belle performance contre l'Australie.
Oui, on a le sentiment que c'est le plus beau groupe. Hein. C'est les matchs les plus serrés. En attendant, un Galles-Australie qui promet.
Oh, celui-là, il va chauffer comme ouais, un Irlande-Afrique du
oui,
Sud
oui,
bah aussi
ça, c'est
le
samedi prochain. Ouais. Ouais, ouais.
Non. C'est vrai que là, c'est une poule où ça va être très, très serré. Ça va jouer à pas grand-chose. Là, les points de bonus vont faire la différence dans cette poule-là. Donc, attention à ce Galles-Australie qui promet.
Bon, François, il y a eu beaucoup de matchs aussi. De
bah, surtout et... que les Fidji ouais, peuvent rencontrer l'équipe de France en demi-finale.
Oui. Oui, oui. Ouais, ouais.
Donc bah, c'est
oui,
tout à fait possible. Alors il faudra qu'ils améliorent un peu leur lancer en touche, parce que là, ils ont été un peu défaillants. Et puis hier, ils méritaient, disons, d'empêcher l'Australie d'avoir le point du bonus défensif. Hein. Ça ouais, s'est joué à très très peu de choses. Donc ce qui aurait pu encore changer les choses dans la poule et leur donner un peu plus de chances de se qualifier. Mais enfin, à mon avis, ils méritent quand même largement d'arriver en quart de finale.
Alors, avant de revenir en détail sur tous ces matchs et sur tous les groupes, et puis sur ce qui donc les matchs qui vont arriver dans les prochaines semaines, en plus, François, on reste sur des très bonnes audiences.
Ah oui, extraordinaire.
Ah, ah ouais, ouais.
Extraordinaire. Bon, deuxième match de l'équipe de France, ça fait plus de 11 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même une audience énorme. Hein. Ça doit être la deuxième meilleure audience de la saison pour TF1. Hier, les Fidji ont fait plus de 4 millions un après-midi sur France 2 et 30%, je crois, de part de marché. Donc, 3 téléspectateurs sur 10 étaient devant le match. Et puis hier soir aussi, 5 millions pour l'Angleterre sur TF1, donc qui est la meilleure audience de la soirée. Donc c'est sûr que la Coupe du Monde de rugby, elle cartonne et c'est certain qu'à TF1, ils doivent se frotter les mains.
Oui, parce qu'on va rappeler que c'est TF1 qui a les droits et qui les a donc sous-traités à France Télévisions et M6.
C'est-à-dire que TF1 a acheté à la World Cup l'intégralité de la compétition, c'est-à-dire 48 matchs. Ils en ont sous-licencié 18 à M6 et 10 à France Télévisions, en se gardant le quart de finale avec l'équipe de France, les deux demi-finales, la finale pour la troisième place et la finale. Et malgré ça, ils ne sont pas certains encore d'être bénéficiaires. Bon, en termes d'image, bien sûr, en termes financiers. Alors, si la France est en finale...
Là, je
oui,
pense,
je pense que là, ils vont y arriver. Mais il y a quand même, bon, les droits, ils ont
le
acheté...
Le droit de pub, il va être cher, là.
Et ils ont acheté quand même ouais, pour une certaine somme. Ils n'ont pas voulu dévoiler le montant, mais on peut dire que c'est environ 40 millions d'euros. Hein. s'approcher de cette somme. Et si la France est en finale avec des spots à 390 000 euros les 30 secondes, je pense qu'ils peuvent y arriver, surtout s'il y a en plus une prolongation. Enfin bref, plus le match durera, à mon avis, plus ils se frotteront les mains, surtout si la France gagne. Si la France gagne, là, ce sera le bingo. Mais le coût, quand même, c'est le coût aussi des investissements, parce qu'ils ont une émission spéciale. Ils ont des... Alors, si c'est un signal international qui est repris, c'est-à-dire que ce n'est pas TF1 qui retransmet, c'est un signal international qui est repris par tous les pays qui ont les droits. Et mais TF1 envoie des équipes pour le terrain, pour des actions spécifiques sur l'équipe de France, etc. Donc tout ça a un coût, et bien sûr, il faut l'amortir.
Et l'avantage, c'est que tous les matchs sont sur des chaînes quand même grand public.
C'est pas une obligation. L'obligation, c'est 21 compétitions, oui, donc protégées, mm-hmm, dont la finale de la Coupe du Monde. Donc la finale de la Coupe du Monde, même si ça avait été acheté par Canal, obligatoirement, ils auraient été obligés de la revendre à TF1, M6, mm-hmm, ou France Télévisions. Alors après, c'est vrai, on a toute la compétition.
Oui, parce que une Coupe du Monde de foot, par exemple, il y avait des matchs, si on n'avait pas bin, on ne pouvait pas les voir. Voilà.
Oui, donc, c'est
donc
vrai
le
que
rugby,
c'est un peu.
Il
n'y
a pas de problème.
Là, sur cette Coupe du Monde-là, on est gâté. Donc, est-ce que ça va durer longtemps? On ne sait pas. Ouais. Parce que ça devient de plus en plus cher d'acheter ce type de compétition. Et comme les chaînes ont quand même un peu moins d'argent, donc investir, donc on en profite.
Julien, avant de rentrer dans le vif du sujet, de revenir sur les différents groupes, comment on fait quand on est joueur de top 14 et qu'on ne fait pas la Coupe du Monde actuellement? Il doit falloir avoir un entraînement spécifique quand même. On arrive à faire des matchs amicaux, on arrive à rester dedans, parce que là, il y a une coupure de championnat, tout du moins pour le top 14, hein. Une coupure de championnat au moins d'un bon mois et demi, quoi.
Oui, alors c'est vrai que c'est pas facile à gérer cette période-là, pour, à la fois pour les joueurs, mais pour les staffs aussi. Organiser. Donc là, ils ont eu 3 matchs de top 14 qui ont déjà été réalisés. Donc ça a eu une grosse prépa physique. La plupart des clubs, ils ont repris début juillet. Donc ça faisait quand même un beau bloc de préparation et puis de compétition. Donc là, c'est vrai qu'il y a cette période de 8 semaines à peu près à gérer.
Long en plus.
Ouais, c'est très très long. Une période quand même de congé. Là, au Stade français, ils ont eu 10 jours, par exemple.
Ils partent quand même 10 jours en vacances. À peine repris.
C'est quand même deux mois et demi quand même de préparation, plus ces 3 matchs. Donc là, voilà, la plupart des clubs ont donné des jours de congé à leurs joueurs. Et là, il y a un bloc de préparation.
Ah oui, parce qu'il faut quand même rester dans le coup, quoi, mentalement et physiquement.
Ouais, complètement. C'est pas évident. Mais bon, voilà, il y a des matchs amicaux qui sont prévus pour une reprise là, fin octobre.
Oui, je crois que juste au lendemain de la Coupe du Monde, c'est reparti.
C'est ça, exactement. Ouais. C'est comme ça. Donc voilà, non. Bon, c'est beaucoup de préparation physique. Il y a le Seven aussi qui est en cours, in extenso aussi. Donc où il y a certains joueurs professionnels qui participent à cette compétition. C'est beaucoup des jeunes, mais quelques joueurs professionnels. Voilà, donc il y a quand même, ça bouge et ça fait des choses et ça travaille très très dur.
Oui, de toute façon, c'est une situation que vous avez déjà connue dans les Coupes du Monde précédentes, hein, parce que, excepté, je crois, une ou deux Coupes du Monde, ça a toujours eu lieu en octobre-novembre.
Le rythme ne change pas, quoi.
Sauf les premières, je crois qu'elles avaient eu lieu fin juin, mais voilà, en mai et puis en juin. Bon, on parle un petit peu des différents groupes, hein. Donc le groupe A, l'équipe de France est en tête avec 8 points, devant la Nouvelle-Zélande 5 points. Troisième, l'Italie aussi 5 points. Quatrième, Uruguay, Namibie 0 points. On va rappeler quand même, on l'avait dit la semaine dernière, que l'équipe de France avait battu la Nouvelle-Zélande 27-13. Et puis, elle a battu beaucoup plus difficilement l'Uruguay 27-12. Comment vous interprétez ce résultat? Bon, certes, il y avait beaucoup plus de talent côté français, mais il y a eu aussi beaucoup d'indiscipline et puis beaucoup de jeux brouillons. Ouais. Est-ce que parfois, c'est pas un peu le risque de tomber un petit peu trop dans la facilité quand l'adversaire est... Ça se voit dans tous les autres sports co, quand l'adversaire est normalement inférieur.
Ouais, alors ça, c'est une gestion de l'équipe, du staff aussi, pour essayer de rester, que les joueurs soient restés connectés à la compétition et aux résultats, voilà, sans perdre le pied. Comme tu l'as dit, Philippe, là, ce match-là, c'est quand même 18 pénalités concédées contre l'équipe de France. Donc, il y a eu un manque de maîtrise générale un peu dans tous les secteurs.
C'est l'Uruguay, c'est la faute de l'Uruguay.
Ouais, ils nous ont mis, on va respecter cette équipe-là. Ouais, ouais. Je pense qu'ils ont mis une grosse pression défensive. Ils nous ont embêtés sur chaque contact, sur chaque regroupement, à contester des ballons. Donc voilà, on n'a pas répondu présent dans ce secteur-là, et dans le rugby, si on n'est pas présent dans l'engagement, c'est plus compliqué. Et des mauvais choix, des formes de jeu qui ne sont pas adaptées. Donc Voilà, on arrive à un résultat un peu étriqué qui nous un satisfait
pas. Un point plus que face au Black.
Un point de plus, un point plus. Et puis voilà, c'est très peu de... Le rugby moderne aussi, c'est des duels à gagner, c'est des défenseurs à battre. Et là, sur ce match-là, on doit être à 15 défenseurs battus. Alors que même l'Uruguay a plus de défenseurs battus que la France. Donc voilà, on n'a pas dominé sur les contacts, on n'a pas dominé offensivement, défensivement. On se retrouve à un match en demi-teinte, quoi.
Oui, l'Uruguay, bon, ils étaient peut-être déjà au top. Peut-être qu'ils vont pas refaire ce genre de match contre les autres adversaires, non ?
À voir. Ils sont sur une bonne dynamique là. Voilà, maintenant c'est aussi. C'est des gros matchs, ouais. c'est beaucoup d'impact, donc il faut voir comment ils vont récupérer tout ça aussi. Donc, mais bon, on a dit que cette Coupe du Monde, elle est longue. Il y a des effectifs. Après, je pense pas qu'ils aient. Bon, ils ont 15 joueurs qui sont plutôt à potentiel pour pouvoir quand même embêter certaines équipes. Maintenant, il y a un vrai effectif pour pouvoir réaliser de bonnes performances. Ouais.
François ?
Ah, moi, j'ai trouvé que l'Uruguay est une très bonne équipe,
oui.
Avec des joueurs quand même qui jouent chez nous en Pro D2 ou en National, de même que le Portugal.
Oui,
le Portugal,
on va en parler
aussi
tout à l'heure.
Une très bonne surprise, et aussi avec des joueurs qui ont été un peu formés au niveau chez nous, comme Marta, l'ailier portugais, qui l'année dernière à Dax a quand même été le meilleur marqueur de National, des 7 nationales. Donc, c'est des joueurs qui connaissent déjà le haut niveau, et je pense que ces deux équipes, dans 4 ans, on les retrouvera peut-être à un niveau un peu supérieur.
Parce que c'est vrai que c'est le problème du rugby et d'une Coupe du Monde. Il y a un énorme écart entre, j'allais dire, les nations traditionnelles et puis celles qui découvrent le rugby, quoi.
Ouais, c'est l'éternelle question, ça, de la Coupe du Monde.
L'Namibie, qui a été battue 71-3 par la Nouvelle-Zélande, et qui a pris aussi 52-8 face à l'Italie, quoi.
Oui, mais bon, il y a des équipes comme le Portugal, comme on a dit, qui sont bien battues aussi. Voilà, l'Uruguay, là, il y a un Italie-Uruguay, là, le week-end prochain aussi.
Une affiche de foot, en principe.
Ouais, c'est vrai. Ah, ouais, donc, il va nous dire aussi, vraiment, si l'Uruguay aussi va continuer à faire des performances comme il l'a fait contre l'équipe de France. Donc, voilà, bon, c'est vrai que c'est des nations soi-disant dits mineurs, mais qui arrivent quand même, lors de ces compétitions, à se transcender, quoi. C'est bien pour le rugby, c'est bien pour le spectacle.
Et puis, il n'y a que comme ça qu'on peut progresser. Hein.
Complètement. Ouais, ouais. Et puis, ça va les faire progresser. C'est sûr que eux, ça va les faire progresser.
Alors, dans le groupe B, c'est un petit peu le cas. Il y a une équipe qui a impressionné, c'est l'Irlande. Hein. 82-8 contre la Roumanie, 59-16 contre le Tonga. Et puis, l'Afrique du Sud qui a aussi battu 76-0 la Roumanie. Voilà le genre de match un petit peu compliqué. On va rappeler quand même que l'Afrique du Sud avait battu, on en avait parlé la semaine dernière, l'Écosse 18-3. Donc, l'Irlande 10 points en tête, l'Afrique du Sud deuxième 9 points. Troisième Écosse, Tonga et Roumanie dans l'ordre 0 points avec le golavrage. Bon, voilà l'exemple typique du groupe où c'est compliqué pour la Roumanie et c'est compliqué pour le Tonga.
Ouais. Après, c'est des équipes aussi qui sont très chirurgicales aussi dans leur jeu. Donc c'est vrai que ils se posent peut-être moins de questions que nous aussi pour aborder ces rencontres-là. Alors, est-ce qu'ils respectent plus les adversaires que nous pour ce match de France-Uruguay, je ne sais pas, mais bon, c'est vrai que c'est très chirurgical et ils ont eu à maîtriser ces deux matchs. On va quand même noter la performance de monsieur Sexton.
Voilà, j'allais le dire. Est-ce que l'Irlande vous t'a impressionné?
Après, l'opposition était quand même très faible. Mais il y a une maîtrise quand même, il y a une maîtrise technique, stratégique de la rencontre qui fait que ils sont quand même présents. C'est une belle performance.
Et franchement, Sexton qui a battu tous les records en Irlande.
Mais là, je voudrais revenir sur la Roumanie, qui était une très bonne équipe il y a 30-40 ans, qui était même presque aux portes
pour
du tournoi, pour rentrer dans le tournoi. Et là, on voit tout d'un coup un effondrement. Ouais. Et hier, il y avait un très beau reportage, samedi, dans Rencontre à 15, sur un joueur de l'équipe de Roumanie qui joue à Aurillac. Et dont la maman est sud-africaine. Donc, dans la famille, ça va être l'opposition. Mais c'est vrai que la Roumanie, c'est assez décevant de voir cette grande équipe qui maintenant passe, au deuxième, voire au troisième niveau des nations internationales, alors qu'à l'époque...
Je me souviens, on est d'une génération très grande. Aller jouer à Bucarest, c'était une année. On recevait les Roumains, une année on allait jouer en Roumanie. Hein. Il y a eu quelques défaites en Roumanie, à Bucarest.
Absolument.
Hein. Ouais, 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 c'était, voilà. Enfin bon, après, je crois que c'est sous Ceausescu. Après, ça c'est, voilà.
Partir de... Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, à partir, ils ont perdu... Non, mais ils ont perdu...
C'est
non,
plus
mais...
athlètes d'État,
non, mais après, ils ont perdu tous leurs sportifs. Et puis l'équipe de rugby, elle s'est complètement...
Il faut qu'ils s'exportent. Je crois que les joueurs, voilà. Je crois que les joueurs de ces petits pays, s'ils s'exportent dans les grands championnats, même si ce n'est pas le top 14 en France, mais Pro D2, ils s'aguerrissent à un haut niveau. Et puis après, ils reproduisent en sélection nationale.
Bon, oui.
Je pense aussi que par rapport... Donc c'est vrai que on peut faire un parallèle aussi avec la Géorgie,
qui est
plutôt une nation aussi montante aussi dans les pays de l'Est aussi. Ouais. Donc ils ont alors j'ai pas tous les tenants et aboutissants, mieux s'organiser aussi, je pense, dans leur formation aussi de jeunes, dans l'organisation stratégique aussi de cette équipe là. Donc voilà, donc il y a un vaste communicant qui s'est fait aussi sur ces pays.
Allez, on va dans le groupe le plus passionnant. Donc le groupe C, l'Australie qui avait battu la Géorgie 35-15. Et puis on en parlait la semaine dernière. Hein, donc qui avait donc ensuite les Fidji qui avaient accroché le Pays de Galles 32-26. Bon, certains disaient qu'il y avait un arbitrage, ils en avaient parlé, qui avait un petit peu limite, mais enfin, on ne va pas rentrer dedans. Le Portugal, justement, battu par le Pays de Galles 28-8. Et puis hier, donc, la première surprise ou demi-surprise, les Fidji qui battent l'Australie 22-15. Donc le Pays de Galles en tête 10 points, les Fidji deuxième 6 points, troisième Australie 6 points, quatrième Portugal et Géorgie avec 0 points. Le Portugal, ça sera, quoi qu'il arrive, une des bonnes révélations de ce mondial.
Oui,
par leur jeu, leur enthousiasme.
Ouais, je pense, c'est ça, c'est exactement ça. Là, ils ont fait vraiment une belle performance parce que, comme tu l'as dit, ils ont pris des initiatives, ils ont voulu prendre un maximum de plaisir sur cette rencontre et ils l'ont fait par le jeu.
Ouais.
Voilà, il y a forcément
un petit défi
physique par rapport à ces nations, mais ça n'empêche pas. Donc, comme tu as parlé de petites nations, et ben, c'est les nations qu'ils entreprennent et qui font des choses. Et ça leur réussit. Donc voilà, ils sont pas loin. Et là, c'est un bonus offensif pris à l'arraché par le Pays de Galles à la dernière minute. Un carton rouge aussi, bon, même si c'était en fin de match aussi pour les Portugais. Donc voilà, c'est une vraie belle performance encore pour cette équipe portugaise.
Bon, François, Galles, Fidji ou Australie?
Moi, le cœur, c'est que les Fidji se qualifient. Je pense qu'ils le méritent, hein, sauf s'ils font des contre-performances sur les matchs à venir. Mais pour revenir au Portugal, aussi à l'Espagne, ce sont des pays qui gagnent en licencié. C'est vraiment des pays qui progressent beaucoup, avec le Nigeria, bizarrement, en licencié. Et je pense que dans 4 ans, ce sera une autre musique. Hein. Je pense qu'ils pourront rivaliser, bon, peut-être pas battre les grosses nations, mais être beaucoup plus près. Et dans 8 ans, alors voilà, peut-être l'avenir dira que ces équipes-là vont remplacer peut-être d'autres équipes qui étaient un peu au sommet. Parce que l'Australie m'a quand même beaucoup déçu. Hein.
Oui, bah, déjà, ils avaient été battus assez largement par nos Bleus en match de préparation fin août. Hein. Là, oui, effectivement, c'est assez décevant. Hein. Ouais. C'est peut-être l'équipe qui va passer à la trappe.
Mais là, il faut voir, il y a un Galles Australie qui va être le juge de paix.
C'est toujours des matchs très serrés en plus.
Ça va être très serré, très sous haute tension ce match-là. Voilà, on espère tout. C'est vrai que c'est un vent de fraîcheur aussi, cette équipe du Fidji. Ils avaient déjà fait une performance il y a 4 ans.
Qui avait battu l'équipe de France dans un match international il y a quelques années. Hein.
Complètement. Ouais. Et puis après, des joueurs hors normes. Là, on parle de plaisir de prendre des initiatives. Ils ont des joueurs derrière, quelques-uns qu'on a eu nous au Stade français. C'est vraiment... c'est vrai, c'est une belle équipe et qui aussi, avant, on les reprochait d'être très peu performants dans l'aspect maîtrise du match, stratégique, sur les phases de conquête où c'était pas forcément efficace ou mal organisé. Là, maintenant, ça y est, ils ont passé un cap aussi par rapport à ça. Et dans cette compétition, ça fait toute la différence. Donc, ils maîtrisent un peu mieux les touches, les mêlées, ils sont quand même présents. Donc voilà, c'est un vrai outsider et attention à eux.
Alors François parlait justement du nombre de licenciés qui montent donc en Espagne et puis en Italie. En France, on espère naturellement recevoir encore davantage de licenciés. Donc c'est pour ça qu'on va recevoir tous les clubs parisiens à partir de la semaine prochaine qui viendront nous dire et nous raconter comment ils vivent cette Coupe du Monde et les espoirs qu'ils ont à travers cette Coupe du Monde. Mais vous sentez déjà un petit...
Alors, tout doucement, après,
ça dépend des résultats.
C'est, non, mais c'est, c'est, il faudrait avoir peut-être Pierre Rabanon là-dessus, parce que
on va l'écouter tout à l'heure en interview.
C'est la problématique qu'ont les clubs parisiens, mais ils vous le feront part des échanges, c'est les infrastructures. Là, on parlait tout à l'heure en off, le club du Massif Central qui sont juste à côté, c'est un terrain pour 600 licenciés.
C'est l'éternel problème à Paris. On loue les installations sportives, c'est compliqué.
Donc, un peu dur. Donc voilà, donc on espère qu'avec cette Coupe du Monde aussi, ça va faire aussi avancer tout ça.
Allez, le groupe D, peut-être la résurrection des Anglais, hein, qui ont battu l'Argentine 27-10, on en avait aussi parlé la semaine dernière, le non-match des Argentins, le Japon qui a battu assez largement le Chili 42-12, et puis le Chili qui a été aussi encore largement battu par les Samoa 43-10, et puis hier, victoire assez facile des Anglais devant le Japon 34-12, donc Angleterre premier 9, deuxième Samoa 5, troisième Japon 5-6, et quatrième Argentine et Chili 0-0, 0 points. Le Chili, ça peut être aussi... C'est particulier aussi comme style de jeu.
Ça peut être aussi
une des équipes attractives à défaut d'avoir.
Je pense que ça va être un petit peu plus dur quand même. Je pense que les joueurs, autant parler des Portugais, il y a beaucoup de Portugais qui jouent dans les compétitions françaises aussi, que ce soit en Pro D2, en Top 14 aussi. Donc ça a un vrai apport aussi sur la compétition. Le Chili, à mon avis, ça va être dur là.
C'est un groupe ouvert finalement, puisque l'Argentine, comme ils n'ont pas très bien commencé la Coupe du Monde.
Ça va être
plus ouvert que pensé.
Le prochain match, le week-end prochain, il y a un Argentine-Samoa.
Donc il va
nous dire aussi la position de l'Argentine dans cette compétition. Et puis l'Angleterre aussi qui a eu, ça n'a pas été si facile contre le Japon à la mi-temps, c'est du 13-6. Mais bon, réaliste, comme ils ont fait contre
le pragmatisme anglais.
Contre l'Argentine sur le premier match. Donc, c'est la deuxième place. Attention quand même pour les Argentins.
Parce qu'effectivement, c'est un groupe qu'on peut retrouver, François, après, en demi-finale.
Absolument. Moi, je crois plus aux Fidji quand même. Parce qu'effectivement, les Fidji peuvent rencontrer l'Angleterre en quart de finale, sans me tromper. Je crois que c'est le...
Alors nous on va rencontrer soit l'Angleterre, qui va normalement finir premier. Et après, soit le...
En demi-finale.
C'est en quart de finale.
C'est l'Irlande.
C'est l'Afrique du Sud et puis l'Irlande.
C'est ça.
Après,
en demi-finale.
En demi-finale, on tombe dans le groupe de l'Angleterre si effectivement tout se passe bien.
C'est ça. Parce qu'on peut avoir, comme tu as dit, en quart de finale, un Angleterre-Fidji. Voilà, éventuellement. Et donc, très ouvert.
Donc... Mais c'est l'effet Kate Middleton. Elle est venue les voir et tout d'un coup, il gagne des matchs. Mais il y a des vidéos qui passent où elle s'entraînait, à faire les touches, etc. Et ça avait un aspect sympathique, rafraîchissant. Et voilà, les joueurs se sont dit, tout d'un coup, ils ont été portés par la royauté britannique.
Oui, puis le roi, il vient bientôt en France, en plus.
En plus.
Bon, voilà, donc pour les deux premières semaines de compétition, il en reste trois avant la fin du premier tour. Comment l'équipe de France va aborder son troisième match contre la Namibie? Il y aura beaucoup de changements ou comme on dit, les tauliers vont revenir.
C'est ce qui est annoncé. Les tauliers vont revenir. On ne peut pas laisser en fait une équipe là, cette équipe-là sans jouer. Là, on est quand même à deux semaines là, du France-Nouvelle-Zélande. On ne peut pas laisser encore une semaine, trois semaines. Donc, il faut de la compétition. Du rythme de compétition. Donc là, on remet l'équipe premium, comme l'annonce Fabien, même s'il ne veut pas qu'on parle d'équipe premium.
Bien sûr, tout le monde parle d'un groupe, un collectif. Et puis, après, il y aura le match contre l'Italie.
Faut faire attention, on va voir le match de l'Italie ce week-end. Bon, maintenant, il faut qu'on monte en puissance aussi de notre côté. C'est important pour bien préparer ce quart de finale là qui va être explosif.
Oui, mais ça, les préparateurs le savent. Donc, ils travaillent en sorte
que toutes
les équipes puissent monter en puissance.
C'est bien de préparer aussi mentalement. Ça veut dire de faire une belle performance là, ce match-là, une belle performance contre l'Italie, pour être prêt aussi... à ce combat là des quarts de finale.
Il y a des joueurs qui risquent de ne plus aller sur le terrain après les matchs. Est-ce qu'il y en a qu'on va pas revoir sur les prochains matchs?
À mon avis, il y en a quelques-uns qui ont perdu des points contre le dernier match. Donc là, à mon avis, ça va très peu tourner, à part bien sûr blessure s'il doit y avoir, en espérant qu'il n'y en ait pas, bien sûr.
Bien sûr.
C'est le risque, effectivement. On a eu une Tama qui est sorti sur blessure avant la Coupe du Monde. Là, il ne faudrait pas que Dupont...
Il y avait Baye qui n'était pas bien, mais enfin qui revient. Ouais, donc ouais, c'est bon, quoi. Ouais, voilà. Mais il ne faudrait pas que... Ouais,
et puis Marchand pourrait revenir dès l'Italie. Pareil. Donc,
c'est ça.
Ce serait une très bonne nouvelle.
Complètement.
OK. Bon, bah, écoutez, on va écouter la première pause musicale. Et puis ensuite, on va trouver un grand monsieur du rugby. Hein, c'est Joe Mazzo.
Absolument.
Donc voilà. Donc, on lance la première musique. Et ensuite, on va retrouver... Donc,
un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement. Les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis. Des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé. Des étoiles comme avant dans mes rêves d'enfant, comme avant sur un nuage blanc, comme avant allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes brise son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac. Bonjour.
Voilà, l'aigle noir de Barbara, et on est ravis en tout cas d'accueillir à ce micro Jo Mazo. Jo, bonjour, bonsoir.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Ouais, comment ça va, Jo?
Très bien, merci.
Très bien, alors merci, avec moi il y a donc quelqu'un que vous connaissez, notre ami François Artigas. Qui vous salue.
Oh, bien sûr.
Ouais, salut Jo.
Voilà.
Et puis, salut François.
Voilà. Et puis quelqu'un que vous devez aussi connaître, Julien Combes du Stade Français.
Oh. Bien sûr aussi bien sûr. Oui.
Voilà.
Salut Julien.
Bonsoir Jo.
Voilà. Bon, comment vous vivez cette Coupe du Monde, Jo?
Parfaitement, ouais. Parce que d'abord on a gagné les deux premiers matchs.
Oui.
Et c'est une de bon augure pour la suite. Et ensuite, parce que j'ai vu qu'ils avaient remis l'équipe des tauliers pour jouer le troisième match, pour préparer le quatrième contre l'Italie, qui sera définitif, bien sûr, pour la qualification.
Mmh. Oui, parce que des matchs comme il y a eu contre l'Uruguay, malheureusement, dans un mondial, ça arrive. Vous en avez aussi connu, dans le passé?
Mais bien sûr qu'on en a connu. On s'est qualifié de justesse en 2007, en 2011.
Oui, contre le Tonga. Hein. Il y avait une défaite contre le Tonga,
exactement,
je me souviens. Ouais.
On a été défaite contre le Tonga et on s'est qualifié aux essais. Mmh. Et à partir de là, après, on est arrivé en finale. Alors, je veux dire, pour que ouais. Il faut prendre des risques. Et surtout pas de s'alarmer pour un match qui est à moitié gagné, quoi. Voilà. Mmh.
En tout cas, c'est une équipe et un groupe que vous auriez aimé diriger en tant que manager.
Bien sûr. Oui, bien sûr. qui ne rêve pas de diriger une équipe en France.
Je m'en doute.
Et nous, en 2007, on était en France, mais c'était une première. Mmh. Alors que là, ils vont pouvoir d'abord, nous on préparait les matchs, on était à l'hôtel, alors que là ils sont à rue et ma maison, où ils sont comme des coqs en pâte. Mais non, je pense que c'est le quart de finale qui me pose problème, parce que on prendra ou l'Irlande ou l'Afrique du Sud, et là il faudra faire le max.
Ouais. De toute façon, il faut battre les deux. Si on veut être champion du monde, il n'y a pas le choix. De toute façon, hein.
Que ce soit mais il faut aller au bout. Pour aller au bout, en tout cas, pour ma part, j'ai joué 4 Coupes du Monde. Mmh. On est allé deux fois en finale et deux fois en demi-finale. Oui. Mmh. Et j'espère qu'actuellement, je pense qu'on a l'équipe, une des meilleures équipes du monde. Et je crois qu'il faut pousser derrière elle, parce que je suis sûr qu'on a de très grands joueurs et des résultats qui vont aller de pair.
Oui, et j'ai l'impression que l'attente, elle est encore plus forte qu'en 2007. Hein.
Ah oui. Mais j'étais au premier match contre la Nouvelle-Zélande, à Paris. Mmh. Et j'ai vu un public enthousiaste et fantastique à tous les points de vue. Mmh. À tous les points de vue. Et je pense que le public français va pousser jusqu'au bout avec notre équipe de France.
Et si on gagne, quelle fête alors?
Ah oui, si ouais. On gagne, ça va être ouais. Partout dans la France, ça va être la folie.
Oui. Julien, petite question à Jo.
Alors, Jo, c'est un monstre du rugby. En tant que joueur et manager aussi, je pense qu'il a vu, même si on a une très belle génération, il a vu, je pense, de très beaux joueurs avec, sportivement et humainement. Voilà, maintenant, ouais, peut-être une petite question là-dessus. C'est quel joueur t'a plus marqué en tant que manager, Jo?
Mais je crois que la question se pose même pas. C'est Antoine Dupont, hein. Mmh. Antoine Dupont, qui était qualifié de meilleur joueur du monde, il est le capitaine de notre équipe et c'est lui qui va montrer l'exemple. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, c'est dommage que Romain Ntamack ne puisse pas être avec lui, puisqu'ils sont ensemble au Stade Toulousain. Mais j'aime beaucoup Mathieu Jalibert parce qu'il a de la classe, quoi. Voilà.
Vous serez au stade pour la finale, si la finale pour l'équipe de France?
Oui, bien sûr, je serai les demi-finales et finales. Oui.
François?
Oui, Jo. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe de France en 99? Bon, ils ont battu les Blacks dans un des plus grands matchs, disons, des tricolores. Qu'est-ce qui leur a manqué pour gagner cette Coupe du Monde?
Non, écoutez, j'étais c'est d'avoir battu les Blacks en demi-finale. Oui. Ça nous a complètement. On était tellement heureux que voilà, c'est ensuite on s'est pas reconcentré pour jouer les Australiens en finale. Et je pense que malheureusement cette victoire contre en demi-finale contre les Blacks nous a porté préjudice en tout cas.
Il y avait un peu le même phénomène en 2007. Hein. Après le quart de finale gagné, ça a été dur de se remettre contre les Anglais en demi-finale. Hein.
Ah oui.
C'est toujours l'éternel problème.
Attention, hein. Les Anglais avaient aussi Johnny Wilkinson, qui était Mais je pense que les Anglais actuels, je pense qu'on les aurait battus. Malheureusement.
Ah oui.
C'était en 2007.
En tout cas, François, vous voulez rendre hommage à Jo en tant que joueur et aussi en tant qu'homme. Hein, on le connaît un peu, on l'a côtoyé, parce qu'il a beaucoup participé à des actions caritatives.
Bah, c'est-à-dire que qui reste indirectement, oui. C'est-à-dire à l'époque, oui. J'occupais des sports à Télécap Saint-Hebdo, et une lectrice m'avait fait part du souhait de sa fille, qui était aveugle de naissance, de rencontrer l'équipe de France. Bon, j'en fais part à Jo, qui à l'époque était manager général des Bleus. Et il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Alors, comme ils avaient un stage à côté de Perpignan, que la petite habitait Perpignan, elle a été avec son beau-père. Donc, grâce à Jo, sans doute son meilleur souvenir, de voir pour elle toute seule les joueurs de l'équipe de France. Donc, un grand merci, Jo. Je crois que des personnalités du sport qui sont capables de tels gestes d'une manière... bénévoles désintéressés. Moi, que je n'en connais pas beaucoup, je connais Pierrot Albaladejo, Michel Hidalgo et un que vous connaissez peut-être plus, mais c'est un très grand dirigeant, c'est Nelson Bayou. Mais je crois malheureusement qu'on a cassé le moule aujourd'hui.
Bien sûr, mais je crois que toute génération confondue, on est capable de se mettre au service des personnes qui souffrent et qui ont malheureusement des drames dans leur famille. Ah, voilà, c'est une volonté de tous, je crois, tous sports confondus, de se mettre au service des actions caritatives.
Et puis on vous croise de temps à autre à la Maison des Sports à Charletti à l'occasion des prix du Fair Play. Vous serez là cette année encore, non, Jo?
Et oui, j'y serai cette année. Ouais. Et vous parlez de Nelson Payou et de tous mes amis qui ont malheureusement notre ami commun nous a quittés trop tôt, mais j'y serai.
Et puis, est-ce que vous avez encore des petites activités dans le rugby dans votre région là?
Oui, je suis le parrain de mon club, du club qui est en Fédéral 2. Je suis le parrain des Angles Rugby Club, voilà. Et je vais de temps en temps, tous les mois, je vais voir un match, voilà.
Ah ben c'est bien, c'est bien. Ah. Ok, bah, Jo, merci en tout cas. Merci pour la disponibilité. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour le rugby et pour le sport. À très bientôt. Dernier petit mot, François et puis Julien.
Il faut rappeler quand même que Jo est un des rares Français à être entré Hall of Fame du rugby mondial. Donc c'est un des.
Puis quel joueur ça a été, hein.
C'était un des plus grands joueurs au monde. Voilà, donc ça, il faut le rappeler.
Philippe, vous savez?
Oui.
Sans les autres, au rugby, on n'est rien du tout.
Eh oui, ça faut pas
sans les autres, sans les avants qui poussent pour gagner les balles, c'est pour ça que c'est un tout. Et c'est pour ça qu'il faut pas trop mettre en avant les. Bien sûr que de temps en temps, il y a les lignes arrières font quelques exploits. Mais maintenant, je trouve qu'on marque beaucoup plus d'essais sur des rucks qui avance à partir des 22. Et voilà. Mais bon, c'est le rugby actuel. Sachons tous être au soutien de l'équipe de France et tout ira bien.
Oui, je crois que ce sont en tout cas des propos qui feront plaisir à Julien, Julien, en tant que formateur vous êtes. Hein.
Quand on parle d'humilité dans le rugby,
il faut avoir l'humilité.
Bien sûr. Merci Jo, en tout cas à très bientôt.
Voilà,
on essaiera de vous revoir pendant le mondial.
Je vous salue tous les trois. Hein,
oui, puis pendant la Coupe du Monde, on essaiera de vous revoir. Peut-être au lendemain de la finale.
J'espère.
Hein, ok.
Oui, d'accord.
D'accord, eh ben, le rendez-vous est pris. Merci en tout cas,
merci, Jo.
Immense merci en tout cas. Voilà. Merci.
Au revoir à tous les trois.
Au revoir, merci. Voilà. Grand monsieur, hein,
absolument,
Mazur, ouais.
Voilà. La générosité incarnée, le talent sur le terrain, à une époque où il y avait encore les cadrages du bordement, il y en a un peu moins maintenant, qui étaient lancés
le jeu
un
est
peu par,
ouvert, le, maintenant, c'est comme dans le, tous les sports,
par le rugby irlandais et par les frères Boniface. Mmh.
Mais je crois me souvenir qu'à l'époque, il y avait des contestations parce que Joe Mazur n'était pas toujours retenu en équipe de France.
Oui, enfin ça, c'est des histoires.
Oui, c'est ça. Je me souviens de ça.
Des histoires avec la fédération.
Oui.
Je me souviens, du favoritisme.
À l'époque, on disait,
c'est
le meilleur trois quarts de centre, et puis c'est le meilleur trois quarts centre de France, et puis il n'est pas retenu,
Mais malgré cela, il est resté un des plus grands joueurs au monde. Les étrangers le citent souvent parmi les 15 meilleurs joueurs au monde, s'il y avait un 15 à établir.
Ouais. En tout cas, on l'aura, Joe Mazur, donc après la finale. Voilà. Bon, juste un petit mot concernant nos amis de l'équipe.
Ah bah, l'équipe, ils font quand même des efforts parce que c'est l'équipe
ce
journal.
Sport,
oui, ils ont quand même 35 envoyés spéciaux, photographes et journalistes. Et ils ont 15 pages quand il y a l'équipe de France. Ils consacrent 15 pages du journal à l'équipe. Au rugby, pas qu'à l'équipe de France, mais au rugby. Et 8 pages, je crois, lorsqu'il n'y a pas l'équipe de France. Bon, ils font un très gros effort parce qu'ils ont quand même besoin d'être boostés. Parce que c'est vrai que la presse papier ne se porte pas si bien. Et là, il faut reconnaître qu'ils font un très gros effort parce que leur chaîne de sport, l'équipe, n'ayant pas les droits, ils n'ont que le droit à l'image, enfin le droit à l'information plutôt, qui est d'une minute trente par heure d'émission. Et encore que pour des émissions d'information générale. C'est-à-dire que si on a une émission spéciale rugby, ils n'ont pas le droit d'utiliser les images. Donc c'est vrai que le premier journal de France a besoin de se rebooster et je pense qu'ils le font plutôt bien.
Hein. Bon, Julien, on va vous faire un petit cadeau. On va vous diffuser les interviews de tout ce qui concerne le Stade français. Alors, on a des interviews qui passent actuellement donc, sur notre Facebook, hein, notamment donc, Dimitri Zarzinski. On va écouter Philippe Guillard, celui qu'on appelle la Guille. Hein. On l'a rencontré donc, dans ce match des légendes. C'était la semaine dernière. Ça a ouvert un petit peu le mondial sur Paris. Match 1, 5-5. Ça, c'était complètement honorifique. On écoute donc la Guille au micro de Mon Paris FM.
Allez, avec Philippe Guillard qui a été, j'allais dire, le speaker de cette belle après-midi de rugby.
Avec Fred, avec l'animateur, il valait mieux faire ça que jouer au rugby aujourd'hui, hein, quand même.
Ouais. En tout cas, c'était une journée sympa qui accompagne un mouvement populaire remarquable à travers ce mondial.
Ouais, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose humainement et on attend beaucoup de l'équipe de France, je pense. Il y a une vraie attente avec une équipe de France qui est très représentative de ce qu'on est tous, à la fois des mecs de banlieue, des mecs du terroir, un peu de tout, mixité un peu de la France. Donc on est super attachés et on voit que ça prend là. Il y a un engouement, ça ne peut qu'aller crescendo.
Oui, c'est plus fort qu'en 2007.
Oui, plus fort.
Oui. C'est quoi? C'est parce que l'équipe de France est peut-être largement favorite, parce qu'on a les jeux dans quelques mois.
Alors largement favorite, j'aimerais bien que tu vires ce mot-là.
Oui, d'accord. Alors, favorite.
Parce que pour l'instant, on est dans les trois premiers, les trois favoris, un peu avec l'Irlande et l'Afrique du Sud. On a battu les All Blacks, mais ça ne veut pas dire qu'on est champion du monde, puisque les All Blacks se font battre par beaucoup d'équipes en ce moment. Donc, il faut démystifier la victoire contre les All Blacks. Donc, on a une équipe qui a tous les moyens pour la gagner. Mais elle n'est pas encore à la maison.
C'est quoi la force de cette équipe? C'est son collectif et puis un manager peut-être qui sait gérer la gestion de notre compétition?
Je pense qu'il y a de tout, quoi. Une équipe championne du monde, c'est tout à la fois. Hein. C'est de la méthode, c'est de l'entraînement, c'est scientifique, c'est à la fois humain, c'est une aventure humaine. Ils vont passer 4 mois ensemble. Donc il faut qu'il y ait une transmission humaine qui soit qui donne envie de jouer ensemble. Et puis il faut des leaders, ce qui est Dupont, Aldrit, ou encore Ramos, qui est un leader buteur. Donc ouais, c'est, on ne peut pas avoir qu'un ingrédient. Il faut avoir les 4 ou 5 ingrédients dont je te parle pour pouvoir imaginer gagner une Coupe du Monde. Bon,
le grand tournant, ce sera le quart de finale, fatalement.
Voilà, c'est le match qu'on attend tous.
Ouais, ouais.
Puisque maintenant, je pense qu'on va terminer premier de la poule et qu'on prendra soit l'Afrique du Sud, soit l'Irlande. D'aucuns diront peut-être l'Écosse, mais je ne pense pas. Mais en tous les cas, il peut y avoir des surprises. Déjà, on va voir à quoi ressemble l'Afrique du Sud ce soir contre l'Écosse.
Ouais. Et puis, bah, sinon, une fête énorme qui nous attend tous en France, le 28, un pays qu'on aura besoin.
Oui, qu'on aura besoin, oui. L'édition en 98, on a dit ça aussi, et les choses se sont empirées. Donc c'est pas, voilà, ça, il y a toujours un après victoire euphorique qui dure 3 mois, 4 mois, et puis après on revient à nos problèmes personnels, quoi, et personnels et autres. Donc je ne pense pas que si on est champion du monde de rugby, je ne pense pas que la France va changer totalement et que d'un seul coup,
ça fait un peu de bien.
D'un seul coup, il n'y aura plus de manifestation. Ouais. Voilà. Mais si jamais c'est le cas, je donne rendez-vous le 28.
L'année prochaine.
Si jamais on est champion et qu'il n'y a plus une manifestation, qu'il n'y a plus, de trucs et de machins, je te paye un bon resto.
C'est noté, Philippe. Merci en tout cas.
Bon, ben voilà, le rendez-vous est pris, c'est ce que vient de dire Guy.
Ouais, bah, top. Hein.
C'est dans le personnage. Hein.
Grand personnage, ouais. Il a l'expérience, il a parlé de transmission humaine, ça c'est quand même des valeurs qui sont fortes aussi. Je pense que Fabien s'est appuyé sur ça aussi. Ouais. Hein. Il a fait passer des messages et il fait passer des messages par d'autres personnes du monde du rugby ou d'autres disciplines aussi. Il a eu beaucoup d'intervenants et voilà, donc ça va être une valeur qui va être forte et qui va permettre à l'équipe de France, je pense, d'aller loin.
Mais c'était sympa cet après-midi de rugby hein, à la Concorde. Hein. Il faisait très chaud, mais ça a bien lancé le mondial.
Ouais, mais là, c'est
dans le cœur des Parisiens et des supporters de.
Mais déjà, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Un terrain de rugby synthétique, voilà, avec du monde, une fan zone qui est remplie les jours de match de l'équipe de France. Donc, là, c'est une vraie belle organisation.
Voilà, bon, maintenant, on a eu une icône du rugby, Joe Mazzo. On va voir une autre grande icône, Max Guazzini. Hein. On l'a rencontré, on a parlé de rugby, on a aussi parlé un peu de radio. Donc on écoute cet immense personnage du rugby et de la radio, Max Guazzini.
Avec Max Guazzini. Max, quelle belle journée pour le rugby. Hein.
Tout à fait, c'est une belle initiative là. Et d'autant plus belle que le Stade français a battu le Racing. Parce que bon, place de la Concorde, le Stade français est chez lui. On est le club de Paris. Donc les banlieusards du Racing, sont repartis avec des valises pleines, comme on dit. Voilà. Et voilà, avec un bon capitaine, Pierre Rabadan, qui est d'ailleurs la joueur au sport, et qui a été un très bon capitaine. Et c'était très très bien.
Alors vous qui avez démocratisé le rugby sur Paris, vous devez être ravi. Hein.
Alors, on est content d'être ici, de voir tout ce monde, place de la Concorde, qui a organisé la ville de Paris, quoi, donc avec, je suppose, d'autres partenaires. Et oui, on est ravis, on est content. En plus, on a une équipe de France qui a bien gagné contre les All Blacks. Je crois que c'est pour le reste de la compétition, c'est un très bon début, quoi. Un très bon début. Voilà.
Oui, on sent un énorme engouement, j'ai l'impression plus fort qu'en 2007.
Écoutez, le rugby est encore plus populaire qu'avant. Je crois que le Stade français y a un peu participé, que certains ont dit à la télévision, on m'a rapporté ça. Mais c'est vrai aussi qu'on a une très bonne équipe de France. On a le meilleur des entraîneurs possibles, Fabien Galthié. Et d'ailleurs, un temps a été à travailler à la mairie de Paris. Et moi, je suis très très content. On a des chances. On a des chances, on a des adversaires à venir importants comme l'Afrique du Sud, l'Irlande. Mais On verra.
Oui. La force de cette équipe, c'est quoi? C'est son collectif, c'est tout? Son entraîneur, mais aussi ses joueurs, une génération spontanée?
La force d'une équipe, c'est toujours son collectif de toute façon. Il y a un moment qu'ils sont ensemble, ils ont vécu ensemble. Moi, j'avais organisé l'an dernier le stage à la Légion étrangère, puisque je suis aussi légionnaire. Et j'ai vu... Je crois qu'ils ont un petit peu calqué quelques... Ils ont un peu calqué ce qui se passe à la Légion sur l'état d'esprit, sur le code d'honneur du légionnaire. Et le code d'honneur de l'équipe de France, du 15 de France, ressemble beaucoup au code d'honneur du légionnaire, avec tout ce que ça implique. Je vous invite à le vérifier vous-même. Et voilà, il y a une bonne équipe, il y a de bons joueurs, ça se passe bien, il y a un bon coaching. Je crois que c'est formidable.
Bon, on voit que vous continuez à suivre les choses du ballon ovale de très près. Hein.
Oui, en plus, je suis très proche de Fabien Galthié, bien sûr. Oui, bien sûr. Et vous savez, j'ai quand même été président du Stade français pendant 18 ans.
Bien sûr.
5 fois champion de France avec le Stade français, donc c'est normal, quoi.
Vous revenez sur mon stade?
Oui, bien sûr. En plus, je crois que si ce stade existe, j'y suis pas pour rien, quoi. À tous les points de vue.
Et puis, bon, nous, hommes de radio, vous avez été aussi le fondateur de l'énergie, hein, on ne va pas l'oublier. C'est vu, c'était dans une autre vie.
J'ai participé, évidemment, j'ai participé à la création et au développement de l'énergie, puisque j'étais aussi le patron des programmes et quand je démissionne, les premières radios de France.
Et maintenant, comment vous avez vu l'évolution justement et du rugby et des radios d'une façon générale?
Ce sont deux choses très très différentes. Le rugby, je crois qu'il est de plus en plus populaire. Parce qu'on a vu que sur le premier match de la Coupe du Monde, l'audience moyenne sur TF1, ça a été de 15 millions avec des pointes. Avec des pointes à 18 millions. Voilà. Et quant à la radio, écoutez. Quand je l'ai quitté, c'était la première radio de France, Énergie. Elle est quatrième, donc voilà, point à la ligne. Mais bon, il y a Nostalgie quand même, qui fait partie du groupe, qui marche très bien aussi, Rire et Chanson, Chérie FM. Voilà, c'est quand même 20 millions de personnes qui écoutent les radios du groupe Énergie chaque semaine.
Bon, on se retrouve le 28 octobre pour une belle fête, Max.
Bah écoutez, moi je suis superstitieux. Okay. Prenons les choses les unes après les autres, les matchs les unes après les autres. Vous savez, on n'est pas à l'abri de pépins. Regardez, il nous manquait Damac, Cyril Bain, la Danty n'a pas pu jouer, UMC, la Marchand aussi a un problème. Ouais, donc soyons prudents. Mais c'est vrai que cette année, on a des conditions qu'on n'a jamais eues pour gagner la Coupe du Monde.
Et puis mais ça va.
On n'est pas à l'abri de... On n'est pas à l'abri d'un match perdu.
Et puis ça va permettre à des clubs aussi d'avoir un afflux de jeunes joueurs. Ça, vous l'avez aussi vécu après 2007.
J'ai pas compris la question.
Un afflux de jeunes joueurs dans les différents clubs.
Oui, effectivement, une Coupe du Monde, surtout si on la gagne, ça génère forcément un afflux de jeunes joueurs dans les clubs, et c'est une bonne chose. En tout cas, je vois la passion autour de cette Coupe du Monde, et ça, c'est formidable.
Merci en tout cas, Max.
Merci.
Voilà, Max Guadini, immense personnage. Hein. Ça a été votre présent, Julien.
Ouais. Bah non, après, c'est comme tu l'as dit, c'est après une vraie belle personne aussi,
oui,
qui est très attachée aux relations humaines.
Oui,
donc,
ça se voit. Hein.
Avec ses staffs, avec ses joueurs, voilà, c'était très très particulier. Voilà, et puis très exigeant, voilà, il est arrivé à ce qu'il voulait arriver. Et, là, lui, c'était la performance sportive qui l'intéressait, donc il a tout mis en œuvre au stade pour réussir tout ça. Et puis il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris, il a réussi. Ouais. Voilà.
François, homme de rugby, mais aussi homme de radio, Max.
Oui, absolument. Oui. Ouais. Il a permis, donc, grâce à ses postes successifs dans la radio qui lui donnaient quand même une aisance financière, il faut le reconnaître, il a permis donc au Stade français de se développer, et on se souvient des matchs au Stade de France avec des places à, je crois que c'était 5 euros,
oh oui, c'était
pour
pas
permettre
cher, hein.
aux jeunes de venir, aux femmes de venir, et ça leur donnait un regain de popularité. Et,
avec le ballon qui arrivait par les
voilà, le ballon, avec tout ce qui était festif autour, avant et après le match, c'est vrai que c'était quelque chose de... Voilà, d'assez inattendu, qui était quand même qui a suscité de la polémique au départ, parce que le rugby n'était pas habitué à ce type de festif, disons, autour. Maintenant, ça devient la tradition. Hein. Un grand club qui n'aurait pas ce côté festif, disons, sera en décalage par rapport au public qui font venir au stade.
Allez, on va écouter le troisième interviewé. Puis il y aura aussi Dimitri Zarzinski que vous pourrez retrouver sur le Facebook. Bon, c'est quelqu'un qu'on connaît, vous l'avez connu, ça a été au Stade français. Nous, on le voit régulièrement dans les conférences de presse. C'est donc Pierre Abadan, maire adjoint donc, à la ville de Paris, du dossier donc notamment de Paris 2024 et des Paralympiques, et puis qui était un petit peu à l'initiative de cette journée. Interview faite en micro tendu avec nos confrères de RMC et de Sport en France.
Donc c'est une belle fête pour le rugby cet après-midi.
Ouais, c'est une très belle fête. D'abord, on vient d'entendre les deux hymnes de l'Afrique du Sud et de l'Écosse, les deux des plus beaux hymnes de la Coupe du Monde. Et voilà, dans l'ambiance, avec le temps qu'on a, et puis ça me donne l'occasion de faire un petit clin d'œil à Mathieu Lartaud, que j'entends parler derrière nous et qu'on est très content de réentendre à l'antenne. Voilà, donc c'est ça, c'est tout ça en même temps. Ici, place de la Concorde, on a retrouvé les deux équipes phares de l'Île-de-France avec le Racing et le Stade. Les vieux, en tout cas, dont je fais partie, mais on a passé un super moment. On a pu faire un match à rugby, au rugby fauteuil après. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on voulait voir ici à place de la Concorde et le partager entre des gens qui viennent de plein d'horizons différents. Et voilà, ça a été un bon résumé, ça, quand même.
Ça vous a rappelé des bons souvenirs avec en plus cette petite victoire en plus à la fin.
Ouais, c'était super. D'abord, merci aux deux clubs qui ont joué le jeu, qui ont fait venir des anciens joueurs. Et c'était un plaisir de se retrouver ici sur le terrain. Évidemment, on préfère toujours quand on gagne. Donc moi, je suis un peu plus content que le Racing. Mais c'était un super bon moment. On a déjeuné ensemble. Et après, on est venu jouer. Et voilà, on a fait un petit match ici. Et après, sur le rugby fauteuil. Et voilà, c'était une belle après-midi.
C'est dans l'esprit de ce premier week-end de la Coupe du Monde ici dans ce village rugby.
Ouais, tout à fait. Voilà, je crois qu'on a donné une forte ambition à cette Coupe du Monde. Comme vous voyez autour de nous, on a voulu faire un village à la hauteur de cette Coupe du Monde 2023, à la hauteur de l'équipe de France, qui a répondu présente vendredi soir. Il y avait plus de 33 000 personnes ici, 50 000 personnes sur la journée, encore aujourd'hui beaucoup de monde. Donc on essaye de célébrer le rugby dans toute la diversité, il y a plein d'enfants, des familles qui viennent, des supporters français, des supporters étrangers. Et c'est tout ce mélange-là qu'on voulait réunir ici dans le cadre sublime de la place de la Concorde.
Question, on vient d'entendre les hymnes là, il y en a à qui ça n'a pas plu, notamment vendredi soir, avec ses chœurs, en canon, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on sait que c'est un moment important dans le rugby, les hymnes.
Ouais, c'est un moment très important. Alors moi, je trouve que c'est très très bien qu'on ait fait chanter des enfants. Ok, c'est peut-être pas la meilleure voix qu'il aurait pu avoir, mais le symbole était très fort. Je sais qu'au départ, ils voulaient les faire venir sur chaque début de match, mais après, pour des raisons techniques, ça a été compliqué. Moi, je trouve que la symbolique, elle est bonne. C'est les enfants qui seront demain les joueurs qui continueront le rugby. Après, c'est peut-être pas les hymnes qui ont la meilleure audio, qui sont vraiment les plus beaux. Et voilà, c'est l'enfant, les enfants, c'est l'avenir. Ceux qui vont faire évoluer le rugby. Et tous ceux qui ont chanté, ils s'en rappelleront. Donc moi, je trouve que le symbole était très joli.
Dans un moment, place de la Concorde, ici, il y aura les Jeux Olympiques. Est-ce que vous allez suivre ça de près aussi?
Je suis très près parce que c'est dans ma délégation d'organiser les Jeux, mais voilà, c'est deux choses différentes. Là, on est vraiment sur cet événement de la Coupe du Monde de rugby qui est un des événements majeurs du sport international. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est le plus grand événement qu'on a jamais organisé en France. Ici, il y aura un site de compétition, il y aura aussi le site d'ouverture des Jeux Paralympiques. Donc, bien sûr, on s'en servira après pour essayer de comprendre ce qui peut encore nous être amélioré dans l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais là, on veut profiter de cet emplacement à fond pendant toute la Coupe du Monde. C'est une très longue compétition en plus. Donc voilà, il va falloir continuer à faire venir du monde, à avoir de la programmation comme on a eu aujourd'hui. Des petites choses qui font que les gens viennent voir les matchs et qui trouvent autre chose à côté. Et je crois qu'aujourd'hui, on a bien rempli ça.
Imaginez si on est champion du monde, on va accueillir le monde entier.
Ben, bien sûr, mais le monde entier il vient déjà sur le premier match, il y avait beaucoup de spectateurs. Moi j'ai fait beaucoup de presse internationale. Voilà, c'est vraiment l'idée. On veut vraiment avoir tous les gens qui viennent à Paris, à côté des matchs ou en dehors, qui passent par ici. Regardez, quand vous n'avez pas de ticket, c'est ici qu'il faut être. Voilà, évidemment. Après, on se prend tous à rêver de la meilleure issue pour la France. On verra, voilà, ils ont passé une grosse étape. Après, il y aura le quart, la demi. Mais bien sûr qu'on espère les voir descendre les champs et venir ici après la finale avec le bouclier.
Merci. Voilà, effectivement, nous aussi, on espère donc les voir donc avec la coupe. Allez, la deuxième pause musicale, je crois que c'est le soleil et la mer avec François de Guelc. Et puis ensuite, on va passer au ballon rond.
Le ciel, le soleil, la mer. Il y a le ciel, le soleil, la mer. Allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable, on est bien tous les deux. C'est l'été, les vacances, oh mon Dieu, quelle chance. Il y a le ciel, le soleil. Le soleil et la mer, ma cabane est en blanche et le lit n'est pas grand. Tous les jours c'est dimanche et nous dormons longtemps. À midi sur la plage, les amis de notre âge chantent tous le ciel. Le soleil et la mer chantent tous le ciel. Le soleil et la mer. Et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance, en chantant le ciel, le soleil et la mer. En chantant le ciel, le soleil et la mer. Quelque part en septembre, nous nous retrouverons. Et le soir, dans ta chambre, chanteront malgré le vent d'automne et les pluies monotones. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil.
Voilà, allez, après le soleil, la mer, la musique, hein, c'était une façon de, eh ben de faire un petit coucou à l'été qui se termine. On va naturellement parler donc de ballon rond, la rubrique foot. On a notre ami du quotidien du sport que je salue, notre ami Stéphane Dezenclos au téléphone. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Philippe, voilà. Bonsoir à toutes et à tous.
Voilà, et puis on salue l'équipe qui va m'entourer, hein, les fidèles, les périodiques. Je retrouve LAG, comment ça va, LAG?
Ça va très bien, toi.
T'as
Philippe.
Passé un bel été?
J'ai passé un bel été.
Très bien. Bon, ok, tu sais qu'il y a un grand joueur malien qui est décédé. Hein.
Ouais.
Hommage Salif à lui, Keita. Hein, Salif Keita, ouais. Énorme joueur.
Le premier ballon voilà. D'or africain.
Mm-hmm. Ouais. Très bien. Notre ami Abou, que je salue, ça va, Abou? Il était là la semaine dernière, ça va?
Ça va.
T'as regardé plein de matchs cette semaine?
Ah, j'ai fait que ça.
Ouais.
Bon, on n'a pas arrêté.
Ah oui. Hein.
Ah, fais attention à ce qu'il ne travaille pas trop, Abou.
Ouais, ouais.
je me ménage, Stéphane, t'inquiète pas.
Et puis, il avait tenu promesse aussi, il est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu me rappelles ton prénom?
C'est Ibrahim.
Voilà, Ibrahim. Bon, alors, avant de revenir sur le début de saison au niveau des championnats, un petit mot sur la défaite de l'équipe de France mardi contre l'Allemagne, 2-1. Vous en pensez quoi? Elle a dit.
Elle a dit.
Bah moi, ça fait un moment que j'en parlais. Hein. Tu ouais. te rappelles quand on commentait les matchs de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde et que j'invoquais la dépendance Mbappé. Mmh. On l'a vu encore une fois, hein, sans Mbappé devant, c'est vide, c'est le néant.
Ça m'a rappelé un peu la défaite face à la Tunisie pendant la Coupe du Monde. Hein.
Voilà, oui, c'est à peu près ça. Mmh. Et ça reste la même chose, quoi. Sans Mbappé devant, c'est très difficile.
Oui, à bout.
Ouais, sans Mbappé, c'est difficile. Sans Giroud aussi, on se rend compte quand même que Giroud, c'est un pilier de l'équipe de France. Et il y a aussi le fait que. C'est Stéphane qui va pas être content. Et il y a aussi le fait que les Allemands, il y a aussi ce choc. comme on dit, hein, quand il y a un coach viré, derrière, il y a le choc qui fait que les joueurs ils se réveillent. Les Allemands, c'était leur premier match en Hansi Flick. Il y a aussi ça, un regain de motivation qui a fait qu'il y a tout ça qui a joué, mais ce n'est pas inquiétant pour l'équipe de France.
Il n'y a pas de conséquences, mais ouais, moi, sentait qu'il y avait beaucoup moins de détermination pour l'équipe de France que les Allemands qui, eux, devaient renouer avec la victoire.
C'est ça, et moins d'enjeux. Et... Mm-hmm. Donc voilà.
Pour revenir sur ce qu'ont dit mes collègues tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est vrai que sans Kylian Mbappé, c'est assez compliqué devant. Je tenais aussi à souligner que la défense, que j'ai trouvé particulièrement faible aussi, avec Saliba et Todibo, que je n'ai pas trouvé excellent. Ça prouve que Konaté ou Upamecano sont quand même assez solides et... Enfin, fallait peut-être s'attendre à une défaite. C'est vrai que les Allemands avaient un côté assez revanchard par rapport à leur défaite face au Japon. Ils partent avec un nouveau sélectionneur. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Mais...
Stéphane, même opinion ?
Non. Justement, je n'ai pas la même opinion, moi. Mon opinion, c'est que Mbappé il avait été mauvais contre l'Irlande avec l'équipe de France. On a gagné. Et là... Le souci, c'est que pas de Mbappé, ça a coïncidé aussi avec un gros turnover. Et comme ça vient d'être dit, la défense Saliba de Todibo, première sélection, avec un mec qu'on a deux et tout. Enfin, moi, je pense que sur ce match-là, Didier Deschamps, il a... C'est pas la première fois, moi, si je le dis, c'est que on est un peu prétentieux avec l'équipe de France. C'est-à-dire qu'on dit, oui, de toute façon, je me rappelle, on en parlait quand tel joueur était absent. De toute façon, on a des joueurs bons partout, à tous les postes et tout. Ben non, moi, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, on a peut-être 10 défenseurs centraux, par exemple. Mais bon, la charnière, c'est Konaté ou Upamecano. Bon, Konaté, il n'était pas là même au premier match. Donc, tu peux lui mettre quelqu'un avec. Ça peut éventuellement le faire. Mais après, quand tu changes trop, c'est n'importe quoi, quoi. Je veux dire, Rabiot et lié gauche, deux défenseurs centraux, quoi. En fait, il y avait une multitude de choses qui font que ça n'a pas été. Effectivement, il y aurait eu Mbappé, on peut penser, mais contre l'Irlande, il n'a pas été bon, Mbappé, mais les autres, ils ont été bons, quoi, tu vois. Mais bon,
Excuse-moi, Stéphane. Mbappé, qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, on se dit la vérité, hein, contre l'Irlande, il n'a pas été bon, mais juste le fait qu'il soit sur le terrain, les défenseurs sont omnibulés par Mbappé, et ça libère des espaces. Franchement, moi, je me suis ennuyé. J'ai regardé contre l'Allemagne, ils n'ont pas proposé grand-chose, hein. Ils n'ont rien proposé.
Ils n'ont rien proposé, mais moi, je pense que le principe, quoi, moi, de mon point de vue, le principal problème de l'équipe contre l'Allemagne, c'était la défense et voire même aussi le milieu de terrain. Et tu peux pas jouer avec Adrien Rabiot quasiment ailier gauche, avec Todibo, Saliba qui sont déjà individuellement limite pour être dans le groupe France. Là, c'est ce qu'on disait des fois, bon, à la Coupe du Monde et autres, ça a bien fonctionné, par contre. Mais c'est là, c'est plus le plan B, c'est le plan C ou le plan D, quoi.
Todibo, je suis d'accord, mais Saliba, non. Je suis pas d'accord du tout. Pour moi, c'est Todibo qui n'a pas été à la hauteur.
J'aime beaucoup Saliba aussi. Mais je pense que c'est... Quoi, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des joueurs qu'on, d'après moi, besoin d'être accompagnés. On a vu Upamecano, par exemple, qui apparaît aujourd'hui comme un peu un taulier presque de cette nouvelle équipe de France. Rappelez-vous les débuts d'Upamecano, quoi. Je veux dire, son premier match, ses deux, trois premiers matchs, ils ont été quand même très problématiques à Upamecano. Donc, je pense que Saliba, il en est peut-être là. Mais bon, même Saliba, effectivement, il a été très correct contre même Camavinga, par exemple. Camavinga, comme quoi le foot ça va vite, hein. L'année dernière c'était lui la star du Real Madrid, qui revenait en équipe de France et tout, et puis là il joue beaucoup moins au Real, et puis il joue beaucoup moins, et en tout cas beaucoup moins bien quand il est en équipe de France. Ça va changer, c'est un jeune joueur, hein. C'est pas du tout une critique, mais moi je pense que effectivement je suis d'accord, il a dit, t'as tout à fait raison, quand t'as Mbappé sur le terrain, ça change tout, même comme tu dis, les espaces que ça laisse aux autres. Mais là, tu n'avais pas Mbappé, tu n'avais pas je ne sais plus qui était remplaçant. Bah, Dembélé, il devait être remplaçant, je pense aussi. Je ne me rappelle plus exactement la compo exacte tout de suite, notamment les attaquants.
Il a remplacé Coman,
voilà, tu as eu plusieurs, beaucoup de changements et tout. Mais on a l'impression que bon, moi, j'en veux absolument pas à Didier Deschamps. Il a fait ce qu'il a pu avec le joueur qu'il avait, ce qu'il a voulu, il a essayé. Ça servira d'expérience aux joueurs et tout, mais c'est vrai que c'est absolument pas étonnant. Le résultat, il est absolument pas étonnant. T'as quand même des Lucas Hernandez, des Rabiot à leur poste, qui sont des joueurs importants, quoi. Ben Mbappé, bien sûr, Upamecano, c'est des joueurs très importants quand même pour l'équipe de France, quoi. Donc là, c'était trop, quoi.
Alors, messieurs, on parle maintenant donc du début de ce championnat. On en est à la cinquième journée. Une journée un petit peu à sensation quand même, avec la deuxième défaite de la saison du PSG, battue au Parc par Nice 3-2. Rennes accroché par Lille 2-2. On a eu la défaite de Lens à domicile devant Metz 1-0. Le nul de Monaco à Lorient 2-2. Et puis aussi Marseille-Toulouse 0-0, ainsi que Lyon-Le-Havre 0-0. Et Brest qui va gagner à Reims 1-0. Donc Monaco en tête 11 points, deuxième Brest 10 points. Troisième, Nice-Marseille, 9 points. Cinquième, PSG, Lille et Metz avec 8 points. Et en bas de classement, donc Lyon, 16e, 2 points. 17e, Clermont et Lens, 1 point. Ça vous inspire un commentaire, Eladji ou Abou?
Ouais.
Le début de championnat, bon, c'est pas trop catastrophique. Il n'y a pas de gros écarts encore, hein. Non, c'est Monaco semble avoir fait le meilleur début.
Oui, c'est pas trop catastrophique, sauf pour le RC Lens quand même, qui comptabilise autant de défaites que sur 38 journées la saison dernière.
4 défaites.
Donc là, on peut parler quand même de catastrophe. Et j'ai bien peur que cette équipe y fasse un gros changement. Je suis désolé, hein. Moi, j'aime bien le coach de Lens. C'est tout ce qu'on aime. C'est un coach qui vient du cru. Tout ce qu'on aime. On aime bien ce qu'il a fait et tout. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir changer la tête aussi à la tête de l'équipe pour qu'il y ait un électrochoc pour les joueurs. Parce que là, il n'arrive pas, il n'a plus d'incidence sur ses joueurs. Et c'est compréhensible quand tu perds des joueurs comme Seko Fofana et devant Openda, même si je pense que Wai, avec le temps, ça va faire l'affaire. Ça devient vite compliqué. Donc à ce niveau-là, moi, pour Lens, je suis très inquiet. Lyon, on a vu un peu...
On peut être très inquiet.
On peut être très inquiet, mais contre le Havre, on a quand même vu une équipe qui voulait gagner ce match. C'est déjà différent de sous Laurent Blanc. Maintenant, à voir comment Fabio Grosso va faire avec cette équipe-là, parce que lui aussi, ce n'est pas un coach plus expérimenté que ça. Donc, à voir comment ça va finir. Et après, moi, l'inquiétude, par contre, elle est sur l'Olympique de Marseille. Bien que l'équipe soit classée 3e avec l'OGC Nice, moi, je m'inquiète pour l'Olympique de Marseille. Là, il y a un enchaînement qui va arriver avec l'Ajax, le PSG derrière en championnat.
Et PSG,
je suis très, très inquiet pour l'Olympique de Marseille. Je suis très inquiet.
Après, c'est Monaco et Brighton après.
C'est pour ça que je suis inquiet pour l'Olympique de Marseille. Là, le mois octobre va être très charnière.
Ils ont l'Ajax.
Et je pense qu'il va devoir Pablo Longoria va devoir réfléchir à changer peut-être de coach. Marcelino, c'est pas le coach profil OM.
Ouais, vas-y.
Moi, en ce qui me concerne, ce qui a retenu mon attention ce week-end, c'est la défaite du PSG à domicile face à l'OGC Nice. J'ai trouvé le PSG très, 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 très peu inspiré, surtout offensivement. On a vu Dembélé très peu décisif encore une fois, rater des occasions qui normalement devraient finir au fond. Ce que j'ai constaté aussi également, c'est que le GC Nice n'a pas forcément fait un match stratosphérique non plus. On a juste vu qu'ils ont été décisifs. Ils ont assez bien défendu et ça a payé. Et je trouve que c'est assez inquiétant quand même pour le PSG, avec une défense assez fébrile, une attaque plus inspirée. Et heureusement que Mbappé était là pour mettre au moins deux buts, parce que ça aurait pu être
inquiétant avant Dortmund ou pour la suite du championnat.
Bah, un peu tout. Ouais. J'ai bien aimé l'entrée de Colomoigny malgré tout quand même. On sent qu'il était motivé et il a quand même apporté quelque chose à l'équipe, mais c'est inquiétant avant Dortmund et pour la suite du championnat. En fait, je vois pas de réel changement par rapport à la saison passée. Je vois pas de progrès malgré le recrutement. J'attends de voir ce qui va se passer, parce que malgré tout, ça reste le début du championnat, mais
ouais, c'est le début, hein.
faut
attendre un petit peu encore avant de tirer les premiers enseignements.
Avec autant de joueurs de qualité, faire de telles prestations quand même, je trouve ça assez inquiétant. Et j'attends de voir ce qui se passera.
Eladji et après Stéphane. Eladji, toi, ton début de championnat?
Moi, mon début de championnat, ça va plus ou moins. Ouais. Les équipes jouent.
T'es pas inquiet?
On a vu un Lens. PSG, je suis pas inquiet. Hein. Moi, pour PSG, ça change pas. C'est toujours la même chose. Si vous remarquez, avant un match de Ligue des Champions, ils sont déjà projetés pour le match de Ligue des Champions. Le match avant qu'ils jouent en Ligue 1, ils le foirent.
Ça, c'est pas
quasiment
faux.
À chaque
ça,
fois.
C'est pas faux.
Quasiment à chaque fois. Celui d'avant et d'après. Généralement, non, mais avant, généralement, voilà. Ouais. Avant surtout, oui, généralement. Maintenant, je vous le dis, après, si ils ont un gros match en Ligue des Champions, ils ont plus de force pour le week-end d'après, du coup, ils ont du mal à jouer.
C'est Marseille.
Voilà, c'est. Ouais.
Le prochain, c'est Marseille.
Ouais, ça va. Marseille. Ça va, alors. Si c'est Marseille, ça va.
Mais tu peux être chez toi, là. Tu vas jouer jeudi. Hein.
Oui,
Amsterdam.
Ouais, voilà. Amsterdam. Ouais. Oui, non. Bon, là, voilà. Mais en tout cas, concernant l'OGC Nice, moi, ça ne m'étonne pas plus que ça. Hein. Ils ont perdu. Après, Ousmane Dembélé, tout le monde dit le temps qu'il s'adapte. Moi, je pense qu'il s'est adapté au jeu, mais en termes de finition, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique.
Ouais, ça, c'est
ce qu'il a loupé ce week-end,
défaut.
On gagne le match. Il y a 1-1, il y a un moment, il y a 1-1. Juste après, il a une grosse occasion, il loupe le 2-1. juste après, il a encore une grosse occasion, il loupe encore. Franchement, voilà, en termes de finition, il faut qu'il travaille ça, parce qu'on voit à l'entraînement ses buts.
Stéphane,
il
n'y
a pas que ça, il y a déjà de ça.
Moi, ce qui m'a hyper déçu, moi, je suis aussi, comme elle a dit et tout, je pense que on peut pas être inquiet, surtout pas faire une comparaison avec ce PSG, celui de l'année dernière, parce que ça n'a strictement rien à voir. Mais on peut pas trop être inquiet pour l'instant. Mais sur Ousmane Dembélé, qui à la base est un joueur que j'apprécie beaucoup, pour l'instant, je suis très très déçu sur l'état d'esprit, quoi. Parce que si on peut, je suis désolé, mais regarder son match, c'est un joueur que j'adore. Hein. Quand on critique Mbappé pour vouloir jouer tout seul, mais alors lui, que dire de Dembélé, quoi ? Parce que quand il met son ballon dans les tribunes, que même moi, je pense que je l'aurais mis moins dans les tribunes, il a quand même un joueur Ramos qui est tout seul à côté. Je veux dire, c'est carrément scandaleux, quoi, de faire cette action-là, quoi. Je veux dire, il a joué perso à fond, quoi. Et c'est arrivé peut-être à plusieurs reprises. Alors sur les côtés, pour percuter, pour dribbler et tout, pourquoi pas. Mais là, quand même, c'est pour moi dépassé, quoi. J'ai pas du tout apprécié. C'est pour moi le gros point noir de ce match. C'est l'état d'esprit. Après, le joueur peut rater. Il a même fait des choses bien de temps en temps aussi et tout. Il a pas été complètement nul dans le jeu. Mais sur l'état d'esprit, j'ai trouvé ça très inquiétant. Puis après, bien sûr, après, on sait maintenant que, quoi, Enrique, j'espère qu'il le sait, qu'il ne peut plus jamais faire jouer Skriniar et Danilo en même temps tous les deux, quoi. Parce que,
surtout Solaire. Non, surtout Solaire. Solaire, ouais, je ne sais pas ce qu'il fait encore au PSG. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il fait encore au PSG. Et Luis Enrique, il est complètement fou de le mettre titulaire et il le met à un poste qu'il ne joue même pas. Déjà qu'à son poste, il est moyen. Alors, à un poste où il n'a pas l'habitude de jouer, mais c'est une catastrophe. Et je ne sais pas, il joue à quoi, honnêtement.
François ?
Oui, moi je comprends pas qu'ils aient gardé Donnarumma, parce que je trouve qu'il y a quand même un gardien numéro 2 qui est un des meilleurs au monde, Navas, qui a une expérience extraordinaire avec le Real Madrid, avec lequel il a gagné plusieurs Ligues des Champions. C'est un mystère pour moi, donc alors peut-être qu'ils le réservent.
C'est la fameuse
gestion
qui est arrivée.
Oui, non, mais peut-être qu'ils vont le garder pour les matchs importants de Ligue des Champions. Mais...
Ça m'étonnerait. Ils le gardent seulement au cas où si Donnarumma se blesse.
C'est vrai qu'ils n'ont pas réglé ce problème de gardien.
Pour l'instant, en tout cas, ils disent que le numéro 1, c'est Donnarumma. Oui, ça, c'est clair.
Au moins, c'est clair.
Clair. Avant, c'était Kouci-Koussa, maintenant, c'est clair. Donnarumma, c'est le numéro 1, même si je ne suis pas d'accord et je ne l'ai jamais été. De toute façon, on a vu, hein, on est allé le plus loin possible en Ligue des Champions avec Navas au goal. Il nous sort un penalty contre Messi, contre le Barcelone, etc. Il nous fait des parades vraiment importantes pendant toute la saison et je comprends pas comment tu peux le mettre sur le banc et tu mets Donnarumma qui n'a pas d'expérience et qui n'est pas encore assez bon pour jouer numéro 1 du PSG.
Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses assez incompréhensibles au niveau de la gestion au Paris Saint-Germain. Quand on voit que...
Ah, c'est pas Navas... nouveau, hein.
Oui, c'est pas nouveau, mais ça continue. On voit qu'on recrute plusieurs joueurs.
Ouais, c'est pas trop incompréhensible. Hein. C'est très bizarre, c'est effectivement. Très, très bizarre. C'est pas trop incompréhensible. Et c'est ce qui reste un peu des défauts. Quoi. C'est un autre des défauts du Paris Saint-Germain. Rappelez-vous, ils achètent Donnarumma parce qu'il est en fin de contrat au Milan AC. Qu'à cette époque, tu l'achètes pas maintenant, quoi, tu le prends pas, parce que tu as peut-être donné une prime, mais en tout cas, il était gratuit. Un an ou deux ans après, c'est 40 millions. Et puis, après, si tu le fais pas jouer, il va gueuler, il va vouloir partir. La bêtise, je pense, c'est qu'il aurait fallu à ce moment-là le prêter dans un club, peut-être en Angleterre, le prêter dans un club, ce qu'ils n'ont pas fait. Maintenant, après, ils ont saisi cette opportunité, mais effectivement, ils ont super mal géré. Super. Alors moi, je ne sais pas, je ne serai pas aussi catégorique que vous sur la différence entre les deux gardiens, mais en tout cas, voir Keylor Navas sur le banc de touche, c'est vrai que c'est un peu regrettable quand même. Mais ça reste, ils ont beaucoup vendu, ça c'est vraiment assaini l'effectif et tout, mais ça reste quand même un peu le point noir de ces histoires de mercato et tout, d'avoir ces deux gardiens. Et en plus de ça, ils ont pris un jeune gardien super prometteur qui a été formé à la Masia, ils te le prennent, et le mec, il est même troisième gardien de but. Donc là, c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre, quoi.
Bon, on parle de la Ligue 2 maintenant, hein. Donc il y a eu 6 journées. Laval en tête, 13 points devant Caen et Amiens, 12. Le Paris FC pas un gros début de saison, hein, pas terrible. Hein, 15e à égalité avec Ajaccio et Dunkerque. Et c'est donc Rouen qui ferme la marche. Quevilly, Rouen avec 2 points. Vous en pensez quoi de le début de saison? On va rappeler quand même qu'Annecy est resté en Ligue 2 après la rétrogradation de Sochaux en National. Stéphane?
Ouais, bah moi, je trouve que justement, il y a pas moins d'une heure, j'étais pendant une heure et demie avec avec Didier Santini, l'entraîneur de Rodez, et on parlait de Laval, par exemple. Effectivement, il me disait Laval, c'est une équipe super solide. Les mecs, ils jouent ensemble depuis longtemps, et il me rappelait un truc parce qu'il a perdu contre Laval, hein, c'est pour ça qu'on en discutait de ça. Et il me rappelait un truc l'année dernière. Il faut pas oublier quand même qu'à la trêve, parce que je lui dis, c'est fou quand même la Ligue 2. Laval était s'est sauvé miraculeusement, hein. C'est un miracle, hein. C'est un but, je crois, à la 93e minute qui leur fait d'être encore en Ligue 2 aujourd'hui à Amiens, quand ils gagnent à Amiens. Et il me dit, mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient 7e ou 8e à la trêve. Ils ont enchaîné malheureusement 10-12 défaites consécutives. N'importe quel président, ou en tout cas 80% des présidents, auraient viré l'entraîneur. Tu ne sais pas ce qui sera arrivé. Le président, il a gardé son entraîneur, qui connaît ses joueurs et tout, c'est toujours le même. Et aujourd'hui, l'équipe, elle fait ça, mais c'est super solide, quoi. C'est une équipe super solide. Alors, c'est vrai que ça fait partie des ingrédients. Il me disait après aussi, on parlait de son calendrier, là, il va au Serre bientôt, 3, Angers. Il me dit, mais tu sais, je peux te dire que je préfère 10 fois jouer contre des équipes comme Angers, Auxerre, 3, que des Laval, Dunkerque qui va jouer samedi, ou des équipes comme ça, quoi. Donc la Ligue 2, c'est vraiment un championnat très 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 particulier, quoi. Et c'est pas forcément ce qu'on peut, c'est dur à prévoir en tout cas.
Oui, et le National, juste pour parler des équipes franciliennes, le Red Star qui va gagner au Mans 2-1 et Versailles qui va gagner à Châteauroux 2-0, ça va plutôt bien pour Red Star actuellement, en tête avec 15 points, alors que Versailles est 12e à égalité avec Nancy, Sochaux et Cholet. Stéphane ?
Ouais, bah ça va être chaud. Bon, c'est pareil, hein, c'est dur de prévoir. Bon, Red Star, à force de mettre quand même pas mal de moyens, d'insister, ils ont raté, je crois, à la différence de but, la montée, je crois, non, en tout cas de très très peu la montée la saison dernière. Bon, ils vont probablement finir par y arriver. Et puis dans un autre sens, là, pour suite les clubs franciliens, Versailles qui était le PSG du National lors de la première partie de la saison. Le paye aujourd'hui avec beaucoup de difficultés. Bon, là, ils ont gagné, tant mieux pour eux. Ils sont 12e, 4 descentes. 6 descentes, combien de descentes ? 6, je crois, non ?
Oui.
En 6, c'est ça ?
En D2 cette année, ouais, 6.
Non, en national.
Non, il n'y en a plus cette année, je crois pas. Je crois qu'il y en a
c'est toujours 6.
4, 6 à nouveau ? 6,
d'accord. Réguler encore.
D'accord, ouais, 6 descentes. Moi, je te dis que je pense que je ne parierai pas. Je parierai pas que Versailles
soit en réguler.
Je sais pas, ça va être très, 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 ça va être très, très dur. C'est 4 descentes en D2 et donc ouais, toujours 6 encore là, parce que la D2 passe à 18
l'année prochaine.
Ça va être chaud. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est des championnats très, très, très compliqués. Moi, je pense que le Red Star peut quand même espérer aller au bout, quoi. Mais il y en a qui vont avoir du mal. Nancy, on a sauvé Nancy.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est la meilleure chose qu'a fait la fédération. Je sais pas ce qu'ils vont donner. Sochaux, ça va être très dur, mais eux, c'est parce qu'ils ont repris tard, ils ont un budget limité. Le cas de Sochaux, on peut en parler longtemps, hein. On pourrait faire une émission spéciale sur Sochaux, hein.
Ils ont deux matchs en retard et c'est le président Petit qui les a sauvés.
Mais est-ce qu'ils ont vraiment le budget il paraît qu'il leur manque quand même pas mal d'argent aussi quand même, pour assumer leur budget, hein. Donc je sais, est-ce qu'ils vont aller au bout de la saison, est-ce qu'ils vont arriver à s'en sortir, tout ça est très c'est très très nébuleux, hein, le National, hein.
Bon, alors Stéphane, on va aussi rappeler que c'était la première journée de D1 féminine. On va donner les résultats des clubs parisiens, hein, puisque le Paris FC a gagné à Lille 4-0 et le PSG est allé gagner à Bordeaux 3-0. À noter que Lyon donc a battu le Havre 4-0. Et puis une bonne nouvelle pour notre club local, hein, le Paris Atlético qui s'est imposé à Angers en GB pour la 4e journée. Elle a dit 2-0. Ils sont 7e ex aequo pour l'instant avec 3 autres équipes. Tu voulais peut-être nous parler des championnats étrangers aussi ?
Oui, oui, bien oui, sûr. Bah, Paris 13 Atlético, on est... une petite parenthèse sur Paris 13 Atlético, on était parti voir leur match même juste avant où ils s'étaient imposés 4-2 à domicile. C'était un beau match avec beaucoup de buts, ce qui nous manquait l'année dernière.
Faut qu'ils remontent,
Oui, maintenant, faut qu'ils remontent. Mais bon, je pense qu'il faut qu'ils prennent leur temps quand même. C'est pour monter et pour ne pas être prêt, c'est pas la peine. Vaut mieux rester en national et que tu sois voilà, assez bien rodé quand tu arrives en Ligue 2 pour rester que.
Allez, un petit mot sur les différents championnats étrangers. Est-ce qu'il y a eu des temps forts sur le début de ces championnats ?
Bon, on a vu en Angleterre Liverpool. Liverpool qui se sont imposés face à Wolverhampton, qui réussissent à rester dans le top. Manchester City aussi. Tottenham qui enchaîne. Voilà, c'est même sans Harry Kane. On a cru que ça allait être difficile, mais franchement, ça va, ils le font. Et la seule équipe vraiment qui se cherche encore. Bon, United, ils se cherchent, voilà, mais après, avec énormément de blessés. Chelsea aussi, mais Chelsea, c'est vraiment lamentable, Chelsea. Hein. Je regarde les matchs de Chelsea, voilà quoi. Je m'endors quand je regarde leurs matchs, quoi. C'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Ils font 0-0 contre Brentford, si c'était pas loin de perdre. Ils sont contents même d'avoir sauvé un match nul. À domicile, ils perdent juste avant. Franchement, c'est pas ouf, quoi. Ils sont dans les derniers. Actuellement, c'est pas fameux, quoi.
Ouais, ils sont 13e. Ils sont 13e, mais. Manchester United, on a beau dire qu'ils ont des blessés, mais je crois qu'ils en ont aussi Chelsea, puis ils ont aussi des joueurs, beaucoup de recrues, bien, c'est le revers de la médaille. Mais United, c'est quand même aussi quand même un peu inquiétant, quand même. Hein. 12e de Première Ligue. Bon, ça, on est au début, hein. C'est vrai qu'on est tout à fait au début. Hein. Et il se passe plein de choses, mais bon, c'est quand même aussi inquiétant, quand même. Maintenant, c'est vrai que,
Après United, il faut voir contre qui ils ont joué et contre qui ils ont perdu. Ils ont joué contre des top 4. Ils ont perdu contre des top 4, contre Brighton, contre Arsenal et contre Tottenham. Tu vois, ils perdent contre ceux qui sont dans le top 4. Et comparé à.
Oui,
à
mais
Chelsea,
et si on est en tout début de saison.
Même si on est en tout début, ils ont déjà joué les gros, quoi. En gros, c'est ça que j'ai envie de dire.
Est-ce que Brighton, c'est un gros de première
actuellement,
ligue
Actuellement, oui.
Bah, oui.
Actuellement, oui. Brighton, c'est un gros de première ligue.
La saison dernière, ils sont, je crois, 5-6, je sais pas combien.
Ouais, 5e.
Ouais, 5e.
Ou 6e, bon, ils ont fini 6e.
Ah bah,
c'est un gros. En première ligue, tu finis dans le top 6, t'es un gros. Là, c'est un gros. Ils jouent contre les gros. Bah, t'as vu, ils ont joué à United, ils ont gagné 3-1. On a vu, hein, ils ont la saison passée, ils ont explosé Liverpool. Ils ont explosé des très bonnes équipes. Franchement, aujourd'hui,
non,
Brighton, c'est un gros.
C'est pour ça que je te dis que c'est cette année, c'est un peu inquiétant. Parce qu'effectivement, l'année dernière, ils ont fait une super. Je trouve qu'ils ont fait une très belle saison, United. Mais là, c'est un petit peu. Leur début de saison est quand même un peu inquiétant, quoi. Ouais. De perdre chez eux contre. Chez eux, je crois. Ils ont perdu ce week-end chez eux contre Brighton. C'est un peu décevant, quand même, je trouve.
Oui, mais moins que Chelsea, quoi. Chelsea, ils perdent à domicile contre Nottingham. Ils gagnent pas à Bournemouth. Ils perdent à domicile contre Nottingham. Voilà, ils perdent contre West Ham, qui sont réduits à 10. Faut arrêter. Leur seul bon match c'était contre Liverpool, première journée. Après, fin.
Très bien. Ben Stéphane, on en reparlera de la semaine prochaine de tout ça.
Mais Chelsea, hein, je suis d'accord
avec les
toi,
coupes d'Europe. Ok. Tout. Merci en tout cas. Tout. Voilà.
Allez, bonne soirée.
Merci.
À vous, les
bonne
amis.
Soirée.
Bonne soirée à vous.
Voilà. Ciao. Très bien. Allez, juste un petit mot. Les clubs de foot parisiens, ils vous intéressent aussi?
Bah oui, moi je suis parisien. Aussi. Moi je suis un parisien, donc je les suis. Moi je les suis. On est juste à côté. Il y a les féminines du PSG qui font des matchs chez nous, donc au stade Jean-Brun.
C'est vrai. C'est
donc,
vrai.
Voilà, on les suit.
Et puis je voulais juste donner un petit résultat de basket. C'était la première journée du Beclic, hein, journée large victoire du Paris Basket, 80-64. Voilà. Voilà pour donc le début du basket parisien. Ben, je vous remercie, messieurs. Hein,
merci.
Voilà,
merci.
Ça a été hein, speedment. Enfin bon, voilà, c'est ça. Merci. Bonne semaine de Coupe d'Europe. On en reparle la semaine prochaine.
On en reparle la semaine prochaine.
Bon, ça va bien se passer pour nos clubs.
Enfin, pour le PSG, après, pour le reste, ça va être très, très difficile.
Ouais. Merci à vous.
Bah, il n'y a pas de quoi.
Ouais. Merci Julien, rendez-vous dans 15 jours, hein. Je crois que vous êtes en déplacement.
Complètement.
Voilà. Et puis François, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Merci pour cette émission bien remplie. Merci à Jason d'avoir été donc aux manettes. Il y a les podcasts que vous pourrez retrouver de la semaine dernière et de cette semaine, et puis également de toutes donc, les saisons précédentes. Et puis on finit, tiens, tourner les serviettes avec Patrick Sébastien pour rester dans le rugby. Bonne soirée. Sometimes
fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. C'est lettre, mais c'est bon pour la tête. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. C'est lettre, mais c'est bon pour la tête. Et tous les grincheux,
on s'en fout.
Et tous les envieux,
on s'en fout.
Tous les prétentieux,
on s'en fout.
Les gens trop sérieux,
on s'en fout.
À perpétuité, la terre entière veut connaître le secret. Même le chef qui est à l'Élysée pour savoir nous a invités. Monsieur le Président, merci pour le repas. Il suffit simplement de faire ça. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. C'est bête, mais c'est bon pour la tête. On fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. C'est bête, mais c'est bon pour la tête. Et tous les ronchons,
on s'en fout.
Les donneurs de leçons,
on s'en fout.
Les grandes opinions,
on s'en fout.
Les tristes et les cons,
on s'en fout.
Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. C'est bête, mais c'est bon pour la tête. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. C'est bête, mais c'est bon pour la tête.